Merci. Voilà, bonsoir à tous. Alors, on n'est pas très nombreux. L'objectif, à mon avis, ça serait que ce soit intéressant pour vous et donc plutôt dans un temps d'échange que je ne vais pas vous refaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit dès maintenant, vous avez des choses, vous voulez absolument avoir eu la réponse avant de partir, soit au fur et à mesure, n'hésitez pas à voilà, on va essayer que ce soit plutôt. Donc là, il y a déjà une première question sur comment on organise ces temps de relecture de la pratique pour arriver à se décoller un peu de notre quotidien. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions vraiment d'emblée Oui. 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 Ouais. Ouais. D'accord. D'accord. Dans quel domaine vous travaillez? C'est juste pour avoir. Je veux pas vous. D'accord. Non, c'est. Donc a priori, vous travaillez pas souvent avec des bénévoles, quoi. Non. c'était juste le. D'accord. D'accord. D'accord, n'hésitez pas. D'accord. C'est une super question parce qu'on est quand même dans une société où parler de religion ou de spiritualité, c'est bien plus tabou que de parler de sexe. Hein. Donc, c'est pas évident. Donc, peut-être on peut essayer de partir sur si on a un projet de soins palliatifs, qu'est-ce que c'est qui fait que ce projet, ce projet il va avoir de particulier, disons, par rapport à qu'est-ce qui, dans les soins palliatifs, peut irriguer toute la médecine, à mon avis, qui n'est pas du tout propre aux soins palliatifs? Et puis, qu'est-ce qui est spécifique, vraiment, dans un service de soins palliatifs? Et je pense que, voilà, l'idée qui est vraiment générale, c'est ce que je disais ce matin, c'est quand même de ce regard global sur la personne. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'entendre toutes un patient qui est atteint d'une maladie grave, même s'il n'est pas en fin de vie, on a beaucoup de patients qui ne sont pas en fin de vie, mais qui sont à une phase avancée de leur maladie, ils sont confrontés à une multitude de difficultés. Et c'est vrai que nous, spontanément, on a tendance à envisager que les difficultés sous l'angle médical, mais en fait, parfois, et assez souvent même, les difficultés médicales sont non seulement une petite partie, mais pas forcément la partie la plus qui va le plus altérer leur qualité de vie ou leur vie tout court. Des fois, le souci qu'on va avoir de ses enfants, de ses parents dépendants, va être bien plus important dans la façon dont on gère la maladie. On a régulièrement, je suis assez frappée, alors je vais faire plein de discussions hein, parce que je suis crevée, donc on a assez régulièrement dans le service des couples. On a eu récemment un monsieur qui était avec un cancer en phase évoluée dont la femme avait une maladie d'Alzheimer. Et donc sa femme, elle passait toute la journée dans le service parce qu'il n'y avait aucun autre endroit. Il y avait un fils unique qui travaillait, donc il venait la récupérer le soir. Mais toute la journée était dans le service et ce monsieur, il ne pouvait pas être malade tranquille. Toute la journée, il était en hypervigilance parce qu'il fallait surveiller qu'elle ne se sauve pas, qu'elle ne dise pas d'incongruité, qu'elle ne fasse pas, qu'elle n'aille pas piquer dans le plateau des voisins. Enfin. Et lui, il était en permanence dans cet état d'hypervigilance, à savoir comment il pouvait veiller à ce qu'elle se tienne comme il faut. Et donc, voilà, on a beaucoup de patients pour lesquels, et lui, son souci principal n'était clairement pas, alors qu'il y avait probablement plein de symptômes qui le mettaient en difficulté, ce n'était pas ça qui était vraiment central pour lui. Le centre pour lui, c'était qui allait prendre soin de sa femme. Donc on est très souvent confronté à ce type, enfin si on prend le temps d'écouter les patients et de se mettre à plusieurs pour les écouter, on va pouvoir entendre justement peut-être avoir une chance de comprendre vraiment ce qui les met en difficulté. Parfois, ça prend beaucoup de temps. Parfois, ça vient très vite. Les patients vont vous le dire. Moi, souvent, quand je vois les patients pour la première fois, j'essaye d'être assez ouverte dans la... Je leur dis, voilà, je viens vous voir parce que votre médecin m'a dit que vous aviez mal ou m'a dit que vous vouliez rentrer à domicile et qu'il fallait qu'on organise ça. Donc, je pars toujours du motif pour lequel on a été appelé. Je me présente jamais comme le médecin de soins palliatifs parce que je sais pas où en sont les gens, parce que je sais pas ce qui leur a été dit, parce que je sais pas comment ils peuvent le recevoir. Donc je pars vraiment du motif d'appel, et parfois les gens vont dire, ah oui, vous êtes l'équipe de soins palliatifs, ok, banco, pas de problème, mais parfois ils vont jamais le dire, et parfois ça va rester dans une espèce de non-dit qui est, en tout cas pour moi, est pas un problème. Et l'idée, c'est qu'on va partir de là où ils sont. Et du coup, je leur dis, voilà, ben, racontez-moi, dites-moi pourquoi votre médecin, il m'a demandé de passer. Et là, voilà, il y en a qui vont partir sur des symptômes, mais il y en a aussi qui vont commencer à expliquer que oui, le retour à domicile, c'est compliqué parce que ceci, cela. Donc parfois, ça va venir assez vite. Et puis parfois, c'est des patients qu'on connaît depuis déjà plusieurs semaines ou plusieurs mois où on va découvrir tout d'un coup le poteau rose. Si vous, on a eu un patient longtemps là, chez nous qu'on suivait, qui voulait absolument jamais être hospitalisé, mais quoi qu'il arrive, enfin, c'était compliqué. On n'arrivait pas à comprendre. On voyait ce en consultation, on le voyait en chimio, on le voyait et il refusait toujours alors qu'il était mal et on a fini, mais je pense au bout de peut-être plusieurs mois, à découvrir que ce monsieur, il s'occupait de son père qui avait 100 ans à domicile, c'était lui qui l'avait en charge. Il était fâché avec ses frères et sœurs et il n'avait pas dit à ses frères et sœurs que lui, il était malade, et donc il ne voulait pas leur dire, et donc il ne pouvait pas leur dire maintenant il faut que vous preniez le relais. Et donc pareil, ce monsieur, ça expliquait tous ces refus de soins que nous on interprétait comme des refus de soins et qui en fait étaient juste un problème lié à l'organisation de sa vie personnelle. Et donc voilà, l'idée pour nous, c'est d'arriver à entendre vraiment globalement ces difficultés. Et pour ça, si vous voulez, c'est tout un type d'organisation des soins qu'on essaye, alors qui est tout le temps en mouvement, hein. Si vous commencez un projet, ça évolue tout le temps. Pour arriver, au fur et à mesure qu'on entend en fait ces difficultés, ça fait évoluer la façon dont on les prend en charge. Donc on a commencé en 2000 avec un projet d'équipe mobile relativement classique. Dès peut-être 3 semaines qu'on existait, on est sorti à domicile parce qu'il y avait des patients qui avaient besoin, qui étaient à domicile et qui nous disaient on a besoin. Donc on a commencé à domicile. Et puis on a eu au début des lits de soins palliatifs qui étaient dispersés dans la clinique. On s'est dit que c'était mieux de les rassembler. Au début, on en avait 6, puis depuis 2010, on en a 12. Voilà, il y a du personnel. Dès le début, on a fonctionné avec les bénévoles, quasiment, je pense, dès le début. Mais voilà, ça s'est construit, ça a évolué. Donc, l'idée pour nous est de proposer aux patients une seule entité de prise en charge. Ils sont pris en charge par une seule équipe, où qu'ils soient. Qu'ils soient à domicile, en hospitalisation d'un service de la clinique, en hospice de jour, en chimio, en hospice complète, en soins palliatifs, qu'ils soient en onco, c'est toujours la même équipe. Et avec l'idée que ça fluidifie pour eux les parcours. Pas besoin de re-raconter chaque fois ce qui nous arrive, pas besoin de revoir une nouvelle psychologue, celle du réseau, celle des lits identifiés, celle de l'équipe mobile qui s'empile comme ça en mille feuilles quand on a raconté une fois sa vie et que déjà ça a été difficile, on n'a pas envie de le refaire 3 fois. Puis les gens, de toute façon, ils comprennent rien, il y a des listes, des EMSP, des USP, des HAD, pour eux ça leur parle absolument pas. Pour nous, c'est notre vie quotidienne, on a l'impression que c'est évident, les nuances, il y a ceux qui prescrivent pas, ceux qui vont faire ceci, ceux qui font pas cela. Donc nous, l'idée pour nous est de partir du patient et de se dire qu'il faut que ce soit le plus lisible et le plus facile d'accès possible à n'importe quel moment de la maladie et à n'importe quel moment, à n'importe quel lieu, où que soit le patient. Donc on intervient en EHPAD, on intervient dans les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, avec voilà, l'idée en tout cas de garder une unité d'équipe pour accompagner les patients. Alors c'est pas toujours les mêmes personnes, mais par contre ils savent que c'est la même équipe, et assez vite, on n'est pas si nombreux quand même, ils connaissent tout le monde, et ça permet cette fluidité là. Donc dans l'équipe, il y a 3 médecins, 2 infirmières, une psychologue, une assistante sociale, une psychanalyste qui est pas psychologue, ce qui est une particularité. Il y a donc les frères, les moines qui viennent dans le service, donc c'est comme ça, en cercle concentrique. Et puis il y a sur le même cercle, il y a des bénévoles et puis quelques autres intervenants extérieurs. Il y a une infirmière qui fait de l'aromathérapie, il y a une musicothérapeute, donc voilà, qui sont sur un cercle un peu plus périphérique. Donc j'essaierai, si je réponds pas à vos questions, n'hésitez pas à ressolliciter moi. Et puis le service d'hospitalisation où il y a des aides-soignantes, des infirmières, et où on essaye là de, si vous voulez, de travailler de façon conjointe pour proposer quelque chose qui soit harmonieux aux patients et qui soit surtout rassurant, sécurisant. On s'aperçoit que ces patients, ils ont beaucoup besoin d'être sécurisés. Ils ont beaucoup de questions. Ils ont des parcours médicaux souvent avec qui pour eux sont rudes. Hein, le jour où on vous annonce un diagnostic, donc on fait beaucoup de cancéro nous, puisque toute la cancéro de Narbonne est faite à la clinique chez nous. Donc 80% de nos patients à peu près c'est de la cancéro. Et on a aussi pas mal de patients. Alors ça, en proportion ça fait pas beaucoup, mais pour nous ça fait beaucoup en charge d'investissement de patients SLA qui viennent en séjour de répit dans le service. Il y a aucun autre lieu, alors au moins à 100 km à la ronde pour accueillir ces patients. Donc voilà, ça ne fait pas 10% de nos patients, mais par contre, ça fait. Voilà, on a quasiment toujours un patient SLA en hospitalisation, et c'est des patients qui demandent beaucoup d'attention et des soins assez particuliers. Donc c'est des prises en charge un peu spécifiques. Donc on essaye de proposer aussi ces séjours de répit, pas seulement pour les SLA, mais pour tous les patients, toutes les familles qui en ont besoin. Et on essaye aussi de s'attacher, donc en écoutant les patients à plusieurs, de trouver l'équilibre entre le fait d'être plusieurs à pouvoir écouter et le fait de pas non plus être dans quelque chose qui serait de l'ordre de l'acharnement relationnel, c'est-à-dire que tous les patients n'ont pas forcément besoin de voir et le médecin et l'assistante sociale. C'est pas un kit, le kit fin de vie où vous avez la psycho, l'assistante sociale, le médecin, la psychanalyste, la morphine, l'hypnovelle et hop, une fois que vous avez coché toutes les cases, le curé en dernier, vous pouvez. L'idée est vraiment de qu'il y ait une proposition. Et que les patients là-dedans se saisissent de ce dont ils ont besoin. Et donc là, on ouvre la semaine prochaine un hôpital de jour. Donc avec l'idée là aussi pour les patients de sécuriser le maintien à domicile. Donc là, ça s'adresse vraiment à des patients qui sont à domicile, mais pour lesquels le maintien à domicile, on sent qu'ils sont, eux ou leur famille, en limite de sécurité. C'est-à-dire qu'ils veulent être à la maison, mais c'est compliqué, soit parce qu'il y a des symptômes difficiles, soit parce qu'ils sont anxieux, soit parce qu'ils sont isolés. Et donc là, l'idée, c'est ce qu'on se dit, c'est qu'en leur proposant de venir, alors selon les patients, une fois par semaine, une fois par quinzaine, une fois par mois, c'est eux qui vont décider, ça va permettre pour eux de rester à domicile en ayant des repères, en sachant, parce que ces patients-là, quand ils arrivent, ils n'ont plus de traitement à visée curative, même si c'est... quand ils ont des chimios, ils savent qu'ils vont revenir une fois par mois. Mais là, ces patients, souvent, ils rentrent à la maison. Et puis, voilà, on leur dit, si vous avez besoin, vous nous appelez. Mais souvent, ils vont revenir par les urgences parce qu'un jour, ils n'en peuvent plus, ils sont trop anxieux, ou il y a un symptôme. Et donc là, l'idée, c'est vraiment d'essayer de proposer un relais et qu'ils puissent se dire, on tient jusqu'à... Voilà, je sais que j'y vais jeudi, je pourrais jeudi poser... Alors, votre projet, dans quel type de structure il s'inscrit ? Est-ce que c'est... D'accord. Parce qu'en fait, si vous voulez, nous, on a la chance, c'est que ça va s'inscrire dans l'autorisation de médecine ambulatoire de la clinique, où actuellement, les patients qui viennent en médecine ambulatoire, ils viennent pour des transfusions, des ponctions d'acide, des choses comme ça. Et en fait, il y a une tarification hôpital de jour, soins palliatifs, elle existe, mais simplement, elle s'inscrit dans une autorisation de médecine ambulatoire. Et du coup, nous, on n'a rien, on n'a fait aucun dossier, rien du tout. On a pris juste les textes. Les textes, ils disent qu'il faut qu'il y ait 3 consultations et il n'y a rien qui est précisé sur le type de consultation. Donc nous, notre projet, il va associer à la fois la possibilité pour les patients d'une prise en charge médicale ou paramédicale, voir l'assistante sociale, faire le point sur les traitements de la douleur. Mais on a associé aussi à ce projet, il y a une art thérapeute, quelqu'un qui fait de la lecture, du théâtre, de la sophrologie, de la relaxation, pour essayer que les patients puissent à la carte choisir en fait que ce soit à la fois un lieu pour faire le point, mais aussi un lieu pour se poser. Hein, donc voilà, l'idée c'est qu'ils viennent dans la journée. Alors je pense qu'il y en a qui resteront pas toute la journée parce que ça sera trop fatigant pour eux, mais qu'en tout cas ils aient ce temps pour souffler et ce temps qu'ils fassent repère. Donc peut-être après ça viendra dans un deuxième temps, mais voilà, nous on a la chance d'avoir déjà l'autorisation de médecine ambulatoire qui fait qu'on n'a rien eu à demander de plus. Mais la tarification elle existe. Hein. C'est pas du tout clair par contre dans le texte vraiment en quoi ça doit consister. Donc nous on s'infiltre là dans un... Personne n'a jamais pensé, je pense qu'on pouvait compter dans les consultations la musicothérapeute, mais on va voir comment ça revient. Mais voilà, l'idée est là aussi de... Et alors, on a été très, très surpris parce qu'on a commencé à en parler aux patients. On a commencé, nous, depuis déjà 2 ou 3 mois, à faire, en staff, à faire une liste des patients auxquels on pensait qu'ils pourraient être, à qui on pourrait proposer. Pour nous, ça nous permettait déjà d'évaluer à quel type de patient ça pouvait s'adresser. Et puis, comme les travaux là, du lieu où on va être avancent, on a commencé à en parler à certains patients. Et ce qui m'a absolument surprise, et a posteriori je me dis c'est drôle que ça t'ait surpris, mais en tout cas c'est comment ils se sont immédiatement approprié le projet. Il y a une dame tout de suite qui m'a dit ah ben moi j'irai ramasser des galets à la plage, on pourra faire des galets peints. Il y a un monsieur qui m'a dit ah mais vous achèterez des sarbacanes, comme ça ça nous fera travailler notre souffle, et puis on pourra faire du modelage, ce sera bon pour nos mains, et puis si on joue à la pétanque ça nous fera travailler le... Mais immédiatement ils se sont projetés eux comme acteurs. Alors que nous, on avait l'idée qu'on allait leur proposer des choses à consommer. Et je pense que du coup, on a essayé de prévoir quelque chose d'assez ouvert en se disant que peut-être on allait être très surpris par ce qui allait venir des patients eux-mêmes. Et bon, voilà, c'est... Donc là, je pourrais vous raconter dans un an ce que ça a donné. Mais voilà, l'idée était de compléter. Il nous semblait que dans l'offre de soins qu'on avait, ça manquait. C'était un élément qui manquait à la prise en charge. Donc voilà, l'idée est de proposer donc des gens variés, des lieux, des types d'accueil variés qui puissent essayer de s'adapter au mieux aux souhaits et aux besoins du patient. Donc pour nous, le fil conducteur est toujours de partir du patient. Donc ça, je pense que c'est vrai pour toute la médecine hein, et pas pour les soins palliatifs, pas seulement en tout cas. Et donc du coup, ce qui est important pour nous aussi... Alors je travaille dans une équipe qui n'est pas du tout il y a des catholiques et il y a des indifférents, il y a au moins une qui est vraiment plutôt anti, donc c'est pour vous dire que voilà, c'est pas non plus une alchimie particulière, enfin, ou un microcosme sur lequel soufflerait seulement l'Esprit Saint là, à cet endroit là particulier hein. C'est une équipe comme tout le monde, enfin comme toutes les équipes de soins que vous pouvez rencontrer. L'idée est qu'on n'a pas de projet pour les patients. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'idée, on ne veut pas les amener quelque part, on ne veut pas qu'ils arrivent au bout de la prise en charge munis de tous les sacrements et ayant coché toutes les cases. Hein. C'est sans passer par les 5 étapes d'Elisabeth Kubler-Ross, dans le bon ordre si possible. Donc voilà, l'idée est vraiment d'aller au rythme du patient. Et ça, c'est facile à dire, mais c'est assez compliqué à faire. Parce que ça nécessite quand même toujours de se poser pour se dire qu'est-ce qu'il veut. Parce que nous, voilà, ça nécessite de renoncer à l'idée qu'on peut savoir nous ce qui est bien pour eux. Et parfois, des fois, on aurait l'idée que ça serait mieux pour eux. On a en ce moment une patiente, une jeune de 41 ans, peut-être pour qui ça paraît vieux, mais pour moi c'est jeune, et qui a un niveau du sein avec des métacérébrales, et donc qui nous a été adressée par l'équipe de Montpellier. Et donc voilà, c'était un arrêt de soins, et donc ils arrêtent les soins, elle repart chez elle à Narbonne, où elle n'a jamais été suivie, et on lui dit « on va vous envoyer une équipe ». Donc ça, c'est toujours des relais un peu compliqués. Donc moi, j'arrive au domicile et la patiente, elle était couchée en chien de fusil sur son lit avec des signes d'hypertension intracrânienne tellement forts que dès qu'elle bougeait la tête, elle vomissait. Et donc en chien de fusil et refusant tout, pas de traitement, pas de perfusion, pas d'hospitalisation. J'en ai marre des médecins, je veux plus voir personne, foutez-moi la paix. De toute façon, je sais que je vais mourir. On me l'a dit très clairement. Donc de toute façon, si c'est pour mourir, je reste ici et j'attends de mourir. Et donc c'est tout un travail d'apprivoisement, c'est vraiment comme le renard du Petit Prince, on s'assoit tous les jours un peu plus près, en essayant de doser pour pas non plus l'envahir. Donc qu'est-ce qui va fonctionner avec son infirmière libérale, qui va être l'interlocuteur, forcément nous on va pas se pointer ni toutes les semaines, ni à deux, ni encore moins à trois, ni lui proposer la psychologue, enfin, mais d'arriver tout doucement à voir qu'est-ce qu'elle pourra accepter. Et forcément, moi, là, à cette première visite, ça me paraît évident que si elle accepte 3 jours d'hospitalisation, du mannitol, du solumédrol, elle sera mieux. Et que ça serait vraiment bien pour elle qu'elle accepte ça. Et que ça serait vraiment mieux, quoi. Enfin, franchement, il faudrait, quoi. Et là, on est vraiment dans le jusqu'où on pousse et jusqu'où on la laisse libre aussi. Et puis jusqu'où on lui laisse le temps d'accepter. Et donc, elle a fini par accepter, mais vraiment par, le contact avec l'infirmière libérale. Qui par chance se trouve être aussi une des infirmières de notre équipe, qui travaille moitié en libéral et moitié, donc c'est dans le même village, donc ça tombait super bien quand même. Et donc elle a fini par accepter 3 jours d'hospitalisation, mais assez longtemps après qu'on l'ait rencontrée, qui l'ont améliorée. Alors là, souvent, une fois qu'il y a eu ça, ça y est, c'est gagné. Elle a été améliorée, elle a vu surtout qu'on l'a relâchée au bout de 3 jours, comme on avait promis, qu'on ne la gardait pas plus longtemps que ce qu'on avait dit. Et du coup, voilà, je pense que ça y est, maintenant la confiance est établie et ça va fonctionner différemment. Mais voilà, il y a un lent travail de construction de cette relation de confiance qui nous paraît super important et qui nécessite de respecter vraiment le rythme du patient à pouvoir accepter certaines choses. Et voilà, chacun y va par son chemin et du coup, nous, on y va par les mêmes chemins qui sont des fois un peu tortueux, qui nécessitent assez souvent d'être imaginatif. Voilà, on est vraiment dans une médecine qui rentre pas du tout dans les protocoles et dans les... enfin, voilà, c'est très difficile de Alors, elle a, c'était, alors, chez nous, la radiothérapie, il faut aller à 30 km pour faire la radiothérapie, ce qui n'est pas énorme, mais qui est déjà beaucoup pour les patients. Cette patiente-là, c'était son premier refus. Elle avait fait une séance de radiothérapie 6 mois avant, qu'elle avait très mal supportée. Et le contact avec le radiothérapeute s'était très mal passé. Quand elle a dit qu'elle était moins bien après la première séance, le radiothérapeute n'a pas entendu, en tout cas, ce qu'elle disait. En tout cas, c'est comme ça qu'elle... et que du coup, c'est terminé. Elle ne voulait plus en entendre parler. Non, il y avait plein de choses qui auraient pu l'améliorer très facilement. Hein. C'est ça qui est le plus douloureux pour nous. Hein. C'est cette frustration de se dire on pourrait facilement faire en sorte qu'elle soit mieux. Et voilà, elle ne pouvait rien avaler et elle ne voulait pas de perfusion. Rien, sous aucune forme, aucun fil. Donc voilà, ça nous limite quand même vachement ce qu'on peut faire. Quoi, parce que là, il ne reste plus qu'à imposer les mains puis ce n'est pas toujours très bien vu. Donc, voilà, c'est compliqué hein, quand d'emblée on est placé en situation de pauvreté et des moyens et là en fait cette patiente ce qu'il fallait renouer, je pense qu'elle était en colère contre les médecins, contre la façon en tout cas dont son arrêt de soins s'était passé, et ce qu'il fallait c'était la réapprivoiser là-dedans et lui dire que non, on allait entendre ce qu'elle avait à nous dire et qu'on allait aller à son rythme et que voilà, on ferait rien qu'elle voulait pas, mais qu'il y avait des choses qui étaient possibles, qu'elle pouvait prendre le temps d'y réfléchir, que si elle changeait d'avis il y avait aucun souci, et voilà, et puis en général on finit toujours par arriver à trouver un terrain d'entente. Je trouve que, contrairement à l'image qu'on peut avoir dans les médias du débat sur la fin de vie, qui semble toujours un débat du patient contre le médecin, comme si on était ennemis et que le patient devait lutter contre le médecin pour obtenir ce qu'il veut, nous, on essaye vraiment de construire une alliance avec les patients. Et alors, dans cette alliance, la famille a une place super importante. Je pense qu'on ne peut pas réussir cette alliance avec les patients si on fait pas si on n'inclut pas les proches dedans. Donc moi, je dirais que dans notre journée de travail, les familles, c'est à peu près la moitié de notre temps, des fois même plus. Et ça me paraît absolument indispensable. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. C'est pas qu'on le fait parce qu'on y est obligé, mais c'est parce que c'est la seule façon, à mon avis, de pouvoir accompagner de façon juste un patient, c'est de comprendre dans quelle vie il s'inscrit. Moi, je leur dis toujours aux patients et aux familles qu'une famille, c'est comme un mobile. Et quand on accroche un fil, un poids à une des parties du mobile, ça déstabilise tout le mobile. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que ce mobile, même s'il est déséquilibré, même si dans la famille, tout le monde va être amené à changer de place, à changer de fonction, va être bousculé, perturbé, chacun en plus va réagir à sa façon. Notre travail à nous, c'est d'essayer que ce mobile, il soit pas détruit, que ça casse pas. Et qu'après, une fois que la tempête aura passé, il puisse retrouver un équilibre qui sera autre, qui sera différent, mais qu'il puisse retrouver cet équilibre. Et donc pour ça, la participation des familles aux décisions, aux choix qu'on fait avec les patients, d'expliquer, de passer beaucoup de temps, c'est pas du temps perdu, c'est vraiment du temps gagné, et ça va de tous les types de décisions, que ce soit toutes les questions qui touchent à l'alimentation. Alors ça, c'est pas tous les jours, c'est à chaque heure de repas qu'il faut reparler de l'alimentation, de comment on fait, de c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on souhaite, qu'est-ce qui est bien pour ce patient-là singulier, et pas cet autre à la chambre d'à côté, mais comment on peut réfléchir, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour qu'il puisse y avoir encore du plaisir éventuellement à cet endroit-là. On fait sur les dossiers de nos patients, on utilise des génosociogrammes. Alors c'est un nom savant pour des petits trucs tout bêtes. En fait, on fait des petits arbres généalogiques où on met le patient et où chacun de nous dans l'équipe enrichi après de ce que le patient a confié ou la famille, qui nous permet de comprendre le fonctionnement de la famille. C'est-à-dire que non seulement on met les gens de la famille qu'on a repérés, les enfants, la première femme, la deuxième, la troisième. Alors des fois, c'est assez compliqué à dessiner de manière... Et puis surtout, on y met les liens en couleur dessus. Donc quand le patient vous dit « Ah ben ça, j'ai 6 enfants, mais vraiment ça, c'est la fille sur laquelle je sais que je peux compter. » on va le noter. Par contre, quand il vous dit chaque fois que je vois ma mère, après je mets 8 jours à m'en remettre, on va le noter aussi, parce que forcément si on organise un retour à domicile, on va essayer de s'appuyer plutôt sur les personnes qui sont identifiées comme ressources par le patient, et plutôt d'éviter et ça, si on le sait pas, forcément on peut pas le réussir. Ça nous permet des fois aussi de comprendre des choses, quelqu'un de la famille qui vous raconte une histoire de la famille qui permet, qui tout d'un coup vous ouvre un décès qui a eu lieu longtemps avant. Et là, tout de suite, vous comprenez mieux les réactions de tous les membres de la famille. On a eu il n'y a pas longtemps un patient dont la femme était en train de mourir avec des difficultés respiratoires vraiment importantes. Et ça a pris aussi longtemps pour que, je pense, sa sœur, la sœur du monsieur, donc la belle-sœur de la patiente, nous dise qu'il a déjà perdu sa première femme en s'étouffant. Et donc forcément, pour ce monsieur, l'idée qu'il allait revivre ça pour la deuxième fois, c'était, et du coup, il était super agressif, on n'arrivait pas, on ne voyait pas comment arriver. Et forcément, ben, une fois qu'on sait ça, c'est une clé de lecture qui est super importante. Donc voilà, on passe notre temps en fait à essayer de trouver des clés de lecture, à partager entre nous. Donc forcément, parfois, il y a des confidences qui sont de l'ordre du singulier qu'on ne va pas partager, mais il y a aussi des confidences qu'on va partager parce qu'elles paraissent absolument nécessaires pour que la prise en charge soit adéquate. Et ça me fait souvenir il y a 6 mois à peu près, c'est un des frères qui vient. Alors j'ai vu que lui, il hésitait vraiment beaucoup parce que je pense qu'il avait reçu, un patient lui avait raconté et je pense qu'il ne savait absolument pas quoi faire. Alors les frères qui viennent chez nous, c'est des frères qui sont en formation, donc ils sont jeunes. Donc il devait avoir 25 ans, je pense, ce frère. Ils sont super, ils sont bien formés, mais quand même, c'est pas évident. Et je pense qu'il avait reçu ce alors c'était pas une confession, il n'est pas prêtre encore, donc je pense qu'il n'y avait pas de secret, mais en même temps, il ne savait pas s'il pouvait nous le partager ou pas. Là, ça rejoint votre question, est-ce que c'est dans l'équipe ou pas? Et puis il a fini par en parler et ce patient lui avait dit qu'il voulait, alors c'était un patient qui vivait dans une caravane avec sa femme et 2 enfants, enfin bref, dans des conditions extrêmement précaires, et qui lui avait dit qu'il voulait rentrer chez lui pour se suicider, maquiller son suicide en accident de chasse, et pour que sa femme puisse toucher l'assurance et que ça paye l'éducation de ses enfants. Et alors du coup, lui, on préparait le retour à domicile de ce patient qui avec nous était absolument non communicant, charmant, très, très courtois, très agréable, mais qui nous disait rien, jamais. À tel point que ce patient, j'avais même pas osé l'examiner, tellement il était... on sentait qu'il maintenait une distance qui n'était pas du tout... Il disait pas, je veux pas vous voir, hein, mais voilà, il y avait une espèce de distance. Et du coup, ce frère était bien encombré de ça. Après, nous, on était bien encombré de ça aussi, une fois qu'on préparait notre tour à domicile. Et ça pose des questions concrètes. Hein. Est-ce qu'on prévient l'infirmière libérale qui va intervenir, qui risque de le trouver dans la caravane? Alors déjà, il y avait peu de chances qu'il arrive à le maquiller en accident de chasse, parce qu'il était quand même bien fatigué. Et puis, on était vraiment ennuyés parce qu'on se disait, l'infirmière libérale, si on lui dit pas et que le matin, elle arrive, et bon, c'est quand même moche, quoi. Et en même temps, si on lui dit, chaque fois qu'elle va aller chez ce patient, elle va être dans l'angoisse de ce qu'elle va trouver. Et puis, c'est une confidence quand même du patient. Il n'a pas forcément envie. C'est dans les villages. Si ça commence, l'infirmière libérale commence à le savoir. On n'a pas trop de maîtrise de qui. Et donc, on a été vraiment, vraiment embêtés. Ce patient est rentré au domicile. On s'est dit, on va essayer de suivre de plus près ce qui se passe. Et puis, peut-être 2 jours après qu'il soit rentré, l'infirmière m'appelle et elle me dit, alors, je suis embêtée. Je ne sais pas si vous savez. Donc, je comprends qu'elle savait la même chose que nous et qu'elle ne savait pas non plus si elle devait nous le dire ou pas nous le dire. Donc, je lui dis, oui, je suis au courant. Et elle me dit, c'est que le problème, c'est que c'est pas du tout lui qui veut se suicider, c'est sa femme qui veut l'assassiner, en fait. C'est le projet de sa femme, c'est pas le sien. Lui, il s'y plie parce que sa femme lui a dit que ce serait mieux, mais lui, il veut pas. Voilà, oh, sa femme, on l'avait jamais vue, elle était jamais venue le voir dans le service, on la connaissait pas. Le monsieur, il avait 38 ans, c'est quand même, il y avait des enfants petits. Enfin, on dit, oh là là, dans la caravane, malheur, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Et du coup, on a réhospitalisé le patient. L'infirmière l'a fait réhospitaliser en dehors de la présence de sa femme. Et puis, il est mort dans le service. Et puis, voilà. Mais pour vous dire que, voilà, on a des fois besoin vraiment d'être à plusieurs pour arriver à décoder ce qui se passe. Donc, voilà, c'est heureusement, ce n'est pas tout le temps des histoires comme ça. Mais quand même, souvent, c'est complexe. Et voilà, il faut construire vraiment au singulier ces réponses. Oui. Alors, on fait comme tout le monde, hein, comme on peut. On n'a pas de recette typique. Alors, j'ai une consoeur derrière qui pourra, si elle a envie, de compléter. On n'a pas beaucoup de demandes explicites d'euthanasie. On en a même, je trouve, très peu. On a des patients qui disent « Docteur, j'aimerais que ça s'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus, mais quand même, quand on leur demande « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi aujourd'hui vous me dites ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent ?» Ils disent « Aujourd'hui j'ai mal » ou « Aujourd'hui ma fille elle est pas venue » ou disons « On va pouvoir au moins trouver un petit lien qui va permettre de tenir jusqu'à demain et souvent demain ça va être très différent. » Et puis quand je vous dis que ça va être très différent, enfin c'est vraiment surprenant quoi, hein. Des patients qui un jour vont vous parler de leur mort et puis le lendemain qui font des projets complètement irréalistes et où on se dit que vraiment, enfin, est-ce que la conversation d'hier a eu lieu ? C'est voilà, hein, le soleil et la mort, ça peut pas se regarder longtemps en face. Et c'est vraiment c'est vraiment ça, quoi. Hein, on a peu de demandes qui sont des demandes qui tiennent de la part des patients. C'est différent de la part des familles. Et je trouve qu'avec ces familles, alors c'est la façon dont on fait, hein, mais c'est pas forcément, c'est pas une recette, hein, mais on a de la chance d'être des services où on a du temps. Peut-être en réa, c'est quand même assez différent. Nous, on a du temps, il n'y a rien qui nous presse, on n'est jamais. Et du coup, la première idée, c'est d'entendre ces familles. C'est-à-dire, elles ont le droit de dire ça. On comprend que parfois elles puissent être épuisées, ils n'en puissent plus, ça a été difficile, ça n'a pas de sens, regardez ce qui se passe, regardez ses plaies, regardez comment il est, donc déjà d'entendre, et donc parfois ce qu'on va faire c'est qu'on va délocaliser, alors déjà notre service actuel ne se prête pas bien, on manque de lieux appropriés, et puis souvent on va faire ça dans les bureaux de l'équipe mobile qui sont un peu décalés, donc c'est-à-dire on propose aux familles de venir autant qu'ils veulent, donc un petit bout de famille ou toute la famille s'ils ont envie, et là on va prendre un temps et ça peut être une heure et demie où ils vont pouvoir déposer, mais je trouve que le fait de délocaliser, de dire c'est vraiment un temps pour eux. C'est pas dans le couloir devant la chambre du patient, c'est un temps seulement pour eux, pour entendre leur plainte à eux, où ils peuvent dire tout ce qu'ils ont à dire, même les trucs hyper culpabilisants, comme j'ai envie qu'ils meurent, en même temps que j'ai pas envie qu'ils meurent, mais en même temps je veux que ça s'arrête parce que j'en peux plus, mais en même temps je voudrais qu'ils soient toujours là, enfin voilà, toute cette ambivalence, et donc ça permet que ça se parle, quand on donne ces rendez-vous comme ça, ça permet aussi qu'on y soit plus nombreux, parce que quand on vient dans les chambres des familles, des patients, tout ça, on essaye de jamais être plus de deux pour pas faire intrusion, mais là par contre, ils viennent chez nous, et donc là, on peut être deux, on peut être trois, il peut y avoir les bénévoles, il peut y avoir un frère, si jamais c'est à propos, il peut y avoir la psycho, même si elle ne suit pas le patient, voilà. C'est un rendez-vous qui est vraiment pour la famille, pour prendre un temps, pour désamorcer. Et je trouve que là, déjà, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est, parce que souvent, quand je trouve, en vieillissant, il me semble qu'on gagne, c'est le bon du vieux, on se sent moins immédiatement agressé par ces demandes. Parce que c'est vrai qu'au départ, la première idée qu'on a quand on a une demande comme ça, c'est « Oh punaise, comment je vais faire pour dire non ?» Enfin, pour pas le faire. Alors que là, une fois qu'on en a moins peur, qu'on est plus à l'aise avec ça, l'idée c'est comment je l'accueille et qu'est-ce qu'on en fait pour qu'il soit rassuré. Donc déjà, quand ils voient qu'on est en alliance là aussi avec eux, qu'on peut entendre ce qui est difficile pour eux et que notre objectif, c'est vraiment avec eux de chercher des bonnes solutions, déjà, je dirais, la majorité des difficultés sont aplanies. Après, le deuxième travail, et ça va être plus l'équipe soignante qui va le faire, c'est de donner un rôle à la famille, une place. À quoi ils servent dans ce temps-là où que le patient met pour mourir, que des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est si long, pourquoi il ne s'en va pas plus vite. Et donc, nous, d'expliquer que voilà, il prend son temps pour mourir, que chacun, je pense qu'on a chacune nos images. Moi, je leur dis toujours que pour se détacher de la vie, ça prend du temps. C'est comme une montgolfière qui s'en va. Là, il y a plein de fils qui l'attachent et ça se dénoue un par un. Et voilà, il lui faut du temps pour se détacher de la vie. C'est pas si facile que ça. Et donc, voilà, c'est ce temps-là qu'il est en train de prendre et de chercher avec les familles quelle place eux, ils peuvent occuper dans ce temps-là. Parce qu'en fait, ce qui est insupportable pour eux, c'est l'impression de servir à rien, quoi. À quoi ça sert, du coup, ce temps qui est vide? Et du coup, si on arrive à redonner une place, donc ça va être l'infirmière qui fait l'aromathérapie, qui fait des massages, elle montre aux familles comment faire, comment masser les mains pour ceux qui ont envie. On utilise la musique, on va utiliser aussi l'alimentation quand les patients s'alimentent. Enfin, on va essayer de voir avec eux quelle place ils peuvent utiliser. Parfois, le travail, ça va être de leur dire de venir moins. Si c'est insupportable pour vous, vous n'êtes pas obligé d'être là 24 heures sur 24. On a un service où les familles peuvent rester H24, mais c'est aussi complètement étouffant de rester 24 heures sur 24 dans un service de soins palliatifs. C'est quand même pas... Donc l'idée est aussi de leur dire, peut-être on va prendre doublement soin de lui, mais autorisez-vous à ne venir qu'un moment. Comme ça, il sait que vous êtes venu, mais vous n'êtes pas obligé de rester si c'est trop pénible. Voilà, je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Voilà, c'est... Donc voilà, et du coup, on n'a jamais eu, alors ça fait que 18 ans, mais en 18 ans, on n'a jamais eu de situation de patients qui, eux, persistent et sur lesquels on se soit trouvé vraiment... ou alors, souvent, quand les demandes arrivent, je trouve aussi, c'est des patients qui sont tout à fait en fin de vie. Et où là, on a envie, le premier réflexe serait de leur dire, mais vous inquiétez pas, quoi. Patientez juste un petit moment, ça va arriver. Ça vous paraît intenable, mais voilà, on y est au bout, quoi. Et donc là, on essaye aussi de dire beaucoup aux familles en particulier, parce que souvent les familles, alors la question qu'on a 18 fois par jour, c'est docteur, il y en a pour combien de temps? Et 18 fois par jour, je réponds, je ne sais pas. Alors avant, je disais, je ne sais pas, je suis nulle en pronostic. Et depuis, j'ai lu un très bon article de Jean-Pierre Vénézèche, qui est un confrère montpellierain que j'aime beaucoup, qui a écrit un article qui s'appelle « Le pronostic est-il éthique ?», qui est une revue internationale de la littérature sur les médecins et le pronostic. J'ai découvert que tous les médecins étaient nuls, tous. Et plus on est proche des patients, plus on est nul. Et on est nul à 2 ans, comme on est nul à 3 jours. Donc ça m'a rassurée sur ma nullité dans les pronostics. Et du coup, je le dis avec encore moins de complexe aux familles. Que voilà. Et parce que souvent, ils ont cette impression qu'on sait des choses et qu'on ne veut pas les leur dire. Donc de leur dire au fur et à mesure, pour nous, ce qu'on voit. Donc je leur dis toujours, moi je peux vous dire ce que je constate en ce moment. Je ne peux pas vous dire comment ce sera demain, mais je peux vous dire qu'en ce moment, je trouve qu'il s'aggrave, que je pense qu'il est plus fragile, que pour moi, la situation devient vraiment difficile. Voilà. Donc on essaye de partager avec eux aussi ce qu'on constate, alors pas forcément de façon violente, hein, mais en tout cas d'essayer de les associer pour qu'ils puissent comprendre aussi, être eux aussi dans cette démarche de comprendre ce qui arrive, que ce ne soit pas pour eux une surprise, mais d'essayer de dire, mais bon, voilà, ça reste, cette question du temps reste une question vraiment extrêmement prégnante, et puis ça se comprend très bien, hein. On s'organise, c'est pas pareil si ça va durer 2 jours ou si ça va durer 2 mois, mais sauf que voilà, là ça échappe vraiment largement à la médecine. Il y a des patients qu'on voit partir super vite alors que bon, on se serait dit qu'il avait la ressource physique pour tenir, et d'autres patients dont on se dit qu'ils n'ont aucune ressource physique. Des patients qui pèsent 30 kilos qui tiennent, mais incroyable, quoi, qui n'ont pas mangé depuis 3 semaines, rien, et qui sont là, comme une petite, il reste une petite flamme, là, et ça ne lâche pas, quoi, hein. Donc voilà, là aussi, c'est tout un accompagnement des familles à regarder ce qui se passe et à voir comment ça peut s'apprivoiser et quelle place ils peuvent occuper dans ce dispositif. Je ne sais pas si ça répond... Alors, alors ça c'est super important, il y a un Suisse qui dit que les soins palliatifs c'est la paix des survivants, et moi j'ai toujours cette idée aussi en tête, c'est-à-dire que le patient il meurt mais les proches eux ils restent, et on voit tout le temps des gens qui vous disent oh là là j'ai perdu ma mère il y a 20 ans et pour qui c'est resté comme quelque chose, un traumatisme indépassable, quoi, hein. Et donc on se dit voilà, de toute façon c'est difficile, la mort c'est difficile, mais par contre on n'est pas obligé d'en rajouter dans la difficulté, la façon dont on les accompagne ça va permettre qu'ils ne se rappellent pas de cette période comme de quelque chose d'absolument insoutenable. Et il me semble, dans ce que vous disiez, quand une décision est prise d'arrêter des traitements, je pense que la façon dont c'est expliqué aux familles et dans le sens qu'on donne de la démarche, pourquoi on le fait, est-ce que l'objectif c'est vraiment le patient, ce qui est le pire pour une famille c'est d'avoir le doute. Moi je vois chez nous avec l'AREA, c'est quand ils ont le doute que c'est pour des raisons économiques, par exemple il faut libérer un lit, des fois ils ont fort, hein, cette impression là, hein. C'est une consoeur que j'aime beaucoup qui travaille à Saint-Denis dans le 9-3, elle fait des soins palliatifs en milieu précaire, vraiment ultra précaire, et elle dit dans mon hôpital, on peut jamais arrêter des soins, on peut jamais les suspendre, parce que dès qu'on dit qu'on va suspendre, les patients ils disent c'est parce que je suis pauvre que vous voulez pas me faire les mêmes soins qu'aux riches. Voilà, elle dit c'est impossible de proposer des arrêts de soins parce que c'est inentendable pour ces familles-là. Donc je pense qu'il y a vraiment tout un accompagnement là aussi de bien montrer aux patients et aux familles, pardon, que l'objectif de cet arrêt de soins, il est pour le confort du patient. Ça va rejoindre pour nous la question de l'alimentation, qui est une question dont hier on n'a pas du tout parlé, mais arrêter l'alimentation, c'est pas un objectif. C'est une possibilité, on peut arrêter l'alimentation et l'hydratation, mais c'est jamais un objectif, c'est jamais un but. Simplement, la question est ouverte, c'est-à-dire qu'à un moment, on peut se poser la question du bénéfice pour le patient de l'alimentation et donc se demander qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est jamais, pour nous en tout cas, c'est jamais un but d'arrêter l'alimentation. Il est en fin de vie, donc on arrête l'alimentation. La question qui va se poser pour moi est jamais de savoir si c'est un soin ou un traitement. Ça, pour moi, c'est une question, je veux dire, dans la vie quotidienne. Par contre, de savoir si elle est choisie ou contrainte, ça, c'est pour moi la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que le patient, il veut être alimenté ou est-ce qu'il veut pas? Donc, les patients qui veulent pas être alimentés, et là, je parle autant de l'alimentation orale que de l'alimentation parentérale, un patient qui veut pas s'alimenter, voilà, vous avez beau vous dire que c'est un soin et qu'il faut le maintenir, vous faites quoi? Vous l'attachez, vous le... À partir du moment où un patient ne veut pas s'alimenter, on n'a pas tellement de moyens de l'y contraindre. Hein. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas envie d'en avoir. Et donc, ça va beaucoup se faire dans le dialogue avec les patients et puis aussi dans qu'est-ce qu'on propose comme alimentation. La question de l'alimentation parentérale et de l'hydratation, on va essayer, nous, chaque fois qu'on peut, de se poser la question avant de le mettre. Donc, pour éviter d'avoir à se poser la question de l'arrêter, de se demander avant de le mettre, est-ce que c'est vraiment important pour ce patient, pour cette famille, quand elle est mise en place, soit qu'elle a été mise en place ailleurs, soit par nous, parce que ça avait paru adapté. Parfois, il y a des choses évidentes qui vont faire qu'on va discuter avec les familles, en particulier de l'arrêt. Un patient qui s'encombre, un patient qui n'est pas bien, on va leur dire, vous voyez, peut-être... Parfois, on sent que c'est entendable et on arrête. Et assez souvent, on sent que c'est inentendable et on va maintenir simplement la poche, on va la passer, un tiers de poche sur 48 heures. Elle est toujours là, symboliquement, mais simplement, elle passe à très petit débit et l'objectif est vraiment, elle est là comme, elle rassure. Elle sert à rien au niveau médical, on est bien d'accord, mais elle rassure et ça nous paraît l'élément essentiel, c'est d'être rassurant. On fait des fois, je sais que j'ai dit ça à des internes la semaine dernière et ça les a choqués, on fait parfois on maintient juste de l'hydratation puis les familles elles disent mais docteur s'il ne mange pas donc déjà moi je remets toujours dans l'ordre, s'il ne mange pas il va mourir, donc je leur dis toujours que c'est pas parce qu'il ne mange pas qu'il va mourir mais que c'est parce qu'il va mourir qu'il ne mange pas. Et déjà quand on a remis dans le bon ordre pour les familles c'est déjà super, il y a quelque chose de super rassurant qu'effectivement, et ils le savent, mais une fois qu'on leur a bien remis que ce n'est pas l'arrêt de l'alimentation qui fait qu'il va mourir, ça pose déjà quelque chose. Et puis après, des fois, quand il y a des familles qui sont vraiment, on sent que c'est tellement sensible, et puis que nous, en même temps, il n'a pas de voie centrale, enfin, il n'est pas question de lui mettre une poche d'alimentation, enfin, c'est pas possible. On met une hydratation, puis on y met dedans des vitamines, comme ça, elle est pleine de couleurs. Et du coup, ça, si on met que la poche, ça a l'air pauvre, mais si on met une poche avec du jaune dedans, si vous mettez des multivitamines dans la poche, ça fait jaune, c'est tout de suite un bon moyen, souvent, de temporiser et d'apaiser aussi, parce que là aussi ce qu'il faut entendre c'est la souffrance, hein, c'est voilà, nourrir c'est le premier, c'est la vie, et si je le nourris plus je l'abandonne quelque part. Donc on a fait aussi tout un travail, alors ça c'est super difficile dans un établissement qui n'est pas dédié qu'à ça, autour de l'alimentation. Ça nous a pris 10 ans pour avoir des plateaux plaisir qui ressemblent à quelque chose, ça nous a pris encore 5 ans pour organiser des pauses fruitées pour pouvoir couper des fruits en petits morceaux. Il a fallu faire tout un protocole de la cuisine avec des bols jolis et pas des trucs jetables, avec un vrai couteau et pas un couteau en plastique, enfin bon, c'est toutes ces petites contraintes de la vie hospitalière. Donc là, est-ce que vous êtes allé à Gardanne déjà? Voilà, c'est une étape incontournable, hein, là, si vous voulez créer un lieu de novo où là, forcément, où il y a des vrais couverts dans un vrai vaisselier avec de la vraie cuisine. Donc ça, c'est vraiment un lieu pour ça, super. Et donc nous, on a des contraintes quand même, même si on a un établissement qui est assez sympa, on a quand même un minimum de contraintes d'hygiène et de... Donc voilà, ça rend compliqué. Donc par contre, on a dans toutes les chambres des frigos qui nous permettent de dire aux familles, un micro-ondes qui permettent de dire aux familles, voilà, vous pouvez amener de la maison ce que vous voulez, il n'y a aucune restriction, aucune contrainte du côté de l'alimentation, donc tout ce qui peut lui faire plaisir, et d'essayer de remettre vraiment toute l'alimentation du côté du plaisir, même si c'est que des goûts dans la bouche, même s'il avale pas, même si c'est des odeurs, mais déjà, voilà, de partir de ce qui va faire plaisir aux patients, et puis beaucoup de temps là aussi d'explications aux familles de pourquoi ils mangent pas, c'est pas qu'il vous en veut, il m'a pas mangé mon civet que je lui avais fait, voilà, c'est donc voilà, beaucoup de temps, et je crois vraiment que tout ce temps qui est accordé aux familles, il n'est pas perdu pour les patients, parce que quand les familles elles sont partenaires des soins, forcément le patient il est mieux. Parce que quand même, l'accompagnant naturel du patient, c'est sa famille, c'est pas nous. Je crois que c'est important aussi de s'en rappeler, parce que des fois, on aurait envie d'être très... voilà, il y a des soignants là qui ont envie d'être maternants, et parfois, il y a un peu la concurrence de qui c'est qui connaît le mieux le patient et qui sait le mieux ce qui est bien pour lui. Et donc, voilà, d'arriver à dégonfler ça dès le début. Donc ça, c'est le travail vraiment qu'on essaye de faire en staff avec l'équipe soignante. Dès que ces difficultés-là pointent, d'arriver à comment on fait participer les familles aux soins, celles qui veulent pas, celles qui ont envie, celles qui pour qui c'est... Et les soignants, comment eux, ils peuvent accepter aussi que les familles fassent avec eux une partie des tâches. Qu'est-ce qu'on laisse aux familles sans avoir l'impression qu'elles aient l'impression qu'on leur abandonne le travail aussi et qu'on fait pas notre boulot. Donc voilà, tout ça, ça se discute. Tout se négocie, voilà, tout est négociable. On n'a aucun principe. J'ai pas oublié votre question sur l'accompagnement de l'équipe, c'est-à-dire aussi comment on s'organise. 10 minutes, d'accord. Comment on s'organise pour tenir le coup en équipe. Donc là, l'avantage, je pense, des équipes de soins palliatifs sur d'autres équipes de soins, c'est que c'est anticipé, c'est-à-dire normalement, c'est pensé d'emblée. C'est pensé d'emblée que c'est un travail difficile et que donc on a besoin d'outils pour tenir. Donc on a un temps de supervision avec quelqu'un qui vient de l'extérieur. Donc il y a un temps où on peut reparler à la fois des patients, mais aussi du travail en équipe. Tu travailles en équipe, montre-moi tes cicatrices. Voilà, c'est pas toujours facile. Hein, donc, pouvoir reparler de ce qui est compliqué dans un lieu où c'est apaisé, où c'est voilà, où on sait qu'on va pouvoir se dire des choses, mais d'une manière entendable par chacun. Donc, je trouve que c'est un temps qui est vraiment précieux. Dans le service, il y a un groupe d'écriture. Le groupe de parole n'a jamais fonctionné. Ils n'ont jamais eu envie. Et par contre, ça fait 5 ans à peu près, c'est la psychanalyse qui fait ça avec l'équipe du service. Ils écrivent sur les patients et ils se lisent entre eux ce qu'ils ont écrit. Et ça fonctionne super bien. Alors qu'au début, il y avait une crainte terrible. Les aides-soignantes, les ASH, elles ont peur de l'écrit. C'est difficile, le passage à l'écrit. Et c'est eux qui ont choisi ce mode. Et ça fonctionne super bien. Et alors maintenant, ils y sont tous venus. Et c'est super intéressant, je trouve. Vraiment, Donc là aussi, il y a un peu d'imagination pour trouver dans chaque équipe ce qui va convenir aux soignants, de ne pas plaquer. Voilà, le groupe de parole, il y en a pour qui c'est trop difficile de parler, de parler à des collègues de ce qui est difficile pour soi. Ben, ça demande déjà d'avoir franchi certaines étapes que tous les soignants n'ont pas franchies. Et il y en a qui vraiment n'arrivent pas à le faire. Donc voilà, nous on a choisi ce moyen-là, c'est comme ça en ce moment, peut-être dans 3 ans ce sera autrement, hein, mais voilà, on en est là de cette étape-là. Et puis après, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est du ressourcement personnel. Moi je fais partie depuis 20 ans d'un groupe Balint de travail sur la relation soignant-soigné dont je ne pourrais pas me passer, mais donc là qui est avec des médecins, des généralistes, des spécialistes, des hospitaliers, des libéraux, toutes sortes de médecins, pas du tout des gens de soins palliatifs, mais où c'est l'occasion de réfléchir sur qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je fais aux patients et qu'est-ce que les patients me font, l'effet qu'ils ont aussi sur moi, parce que beaucoup de médecins croient que les patients n'ont pas d'effet sur eux, mais ils ont un effet sur nous de la même façon que nous on a un effet sur eux, et qu'ils nous touchent et que ça nous fait quelque chose, et que du coup il y a des patients avec qui on est à l'aise, d'autres avec qui on est moins à l'aise, et du coup voilà, de reprendre tout ça à froid, à distance, c'est un élément important. Le travail en équipe est super précieux. Moi je pourrais jamais faire le boulot que je fais sans l'équipe avec laquelle on bosse, qui vont pouvoir dire ah, mais là il faut que tu arrêtes, tu t'es trop proche, ou au contraire je vois que là c'est difficile, si tu veux j'y vais pour toi, ou de pouvoir dire à un autre moi j'y arrive pas, là il faut que ce soit toi qui prenne le relais. Enfin, ça c'est un élément aussi, la confiance dans l'équipe qui est vraiment super fort. Donc on prend beaucoup de temps en équipe, on mange beaucoup, on passe notre temps à bouffer. Je croyais que c'était une propriété de chez nous, et au dernier congrès de la SFAP il y avait un atelier sur le grignotage en soins palliatifs, donc c'est a priori très répandu, mais le fait de manger ensemble, je trouve, on voit tout de suite quand vous rencontrez des équipes. Il y a une autre équipe pas loin de chez nous où ils mangent pas ensemble et ça se voit tout de suite. Les infirmières, elles vous voient le docteur, on voit tout de suite. Quand on bouffe ensemble, forcément, on ne peut pas s'engueuler de la même façon quand on a mangé ensemble. Quoi. Et puis, on fait des choses en dehors. Mais ça, c'est chaque équipe aussi fait à son goût. On est parti à Rome, à Venise. On essaie d'organiser régulièrement des temps où on sort du service et où on fait vraiment d'autres choses. Voilà. Alors, c'est libre, hein, chacun est libre de venir ou de... Sur le total, tout le monde y participe à un moment ou à un autre, et je trouve que c'est des temps importants. C'est aussi des temps qui permettent de se connaître différemment et donc de prendre soin les uns des autres de manière adaptée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Ils le lisent entre eux, ils se lisent ce qu'ils ont écrit. Et donc, soit ils décident, alors c'est eux qui choisissent d'une fois sur l'autre, c'est pas la même chose, soit ils écrivent sur le même patient. Je me rappelle, ils ont fait ce travail il y a quelques temps. On avait eu une patiente gitane, on a régulièrement des patients gitans dans le service. C'est des prises en charge très spécifiques, les familles gitanes, c'est très particulier. C'est très envahissant, mais en même temps, ça peut être super riche. Mais voilà, ça nécessite en permanence de recadrer. Et alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des soignants pour qui il y a d'emblée une aversion, enfin une difficulté à prendre en charge ces patients-là. Dès qu'ils arrivent, il y a une espèce de méfiance. Ils vont nous piquer tous les gants, ils vont nous piquer tout le... La dernière qu'on a eue, le parking de la clinique était rempli de camping-cars, mais rempli. La directrice m'a dit... Vous pensez qu'il y en a pour longtemps, lui. C'est pareil qu'aux autres, je vais répondre, j'en sais rien. Et moi, tous les matins, j'arrivais, je voyais qu'il y avait encore tous les camping-cars, et je me disais, elle est toujours là. Mais vraiment, alors le linge qui sèche sur le parking de la clinique, donc ça, pour la direction, ça, c'est dur. Hein. Ils souffrent, la famille qui se douche dans le local des soignants, qui se font la teinture pour les cheveux, enfin, c'est sûr que ça met à l'épreuve le cadre. C'est des familles qui mettent le cadre à l'épreuve, vraiment. Et donc, il y a des soignants pour qui c'est super difficile. Donc, ils avaient choisi d'écrire sur cette patiente. Et c'était super intéressant. Je pense que ça leur a fait découvrir comme ils avaient des regards différents, comme ils se rappelaient de choses très différentes, comme ils avaient été marqués par des choses très différentes. Et du coup, je pense que ce travail d'écriture où ils voient que chacun vit les choses de manière très singulière... Parce que les soignants qui sont dans le service, à l'équipe mobile, on est des soignants qui ont choisi de venir là, on a fait des formations. Je pense ça vient au terme d'un projet. Les patients qui sont dans le service, on leur a proposé. Il n'y a personne qui vient sans être volontaire, mais souvent, c'est des soignants plus jeunes et qui ont moins d'expérience. Et là, quand ils découvrent à quel point chacun vit les choses différemment, ça fait tomber plein de jugements sur « elle est comme ci, il est comme ça ». Et du coup, ça leur permet aussi, je pense, entre eux, de bien mieux comprendre leurs réactions. Et donc, voilà, il y en a une qui n'est pas gitanophile, mais c'était la même chose, ça voulait dire, mais c'était en langage, en patois. Elle adore les familles gitanes. Et du coup, c'est elle maintenant qui fait l'accueil de ces patients-là. Quand il y en a qui arrivent, c'est elle qui va aller, c'est une aide-soignante super, une bonne vieille aide-soignante là, géniale, et ben voilà, c'est eux qui ont choisi parce qu'ils savent qu'elle a elle sait y faire avec eux quoi. Donc c'est pour vous dire que tous ces outils là permettent à chacun aussi de trouver sa place singulière dans le service. Oui. Alors, c'est que du bénévolat d'accompagnement. Donc, c'est une association qui dépend. Ils ont été Jalmal, maintenant ils sont ASP. Ils sont super sympas, mais ça va changer. On va bouger parce que on voudrait justement que ce soit pas seulement du bénévolat d'accompagnement. Et eux aussi, ils ont envie. On voit dans le projet d'hôpital de jour, tout de suite, ils ont proposé des jeux de société, des machins. Ils sont en train de sortir complètement de leur cadre. Donc, le projet d'hôpital de jour, je pense, va être l'occasion. On leur a proposé de créer une association propre pour pas les faire sortir de leur cadre, du cadre qui est le leur. Normalement, on veut pas les mettre en difficulté non plus avec leur fédération et leur association, mais en même temps, eux aussi, ça les contraint. Parce que normalement, les associations de bénévoles, les grandes associations de bénévoles qui interviennent dans les services soins palliatifs font du bénévolat d'accompagnement, c'est-à-dire qu'ils font uniquement de l'écoute. Ils font rien d'autre que de l'écoute, ce qui est super important, mais qui est parfois difficile pour les bénévoles. Il y en a beaucoup qui, du coup, lâchent parce que faire que de l'écoute, c'est drôlement aride. Et du coup, c'est compliqué. Et puis, il y a beaucoup de patients pour lesquels c'est aussi un peu difficile d'avoir quelqu'un qui est là, qui écoute. Et c'est sûr que la médiation d'un jeu, d'un goûter, de quelque chose, ça aide quand même. Et donc, voilà, Alors, on est allé deux fois à Gardanne cette année et on était déjà allé, mais on est retourné parce que justement avec ce projet d'hôpital de jour, on voulait discuter avec eux de ce qu'ils font eux. Et ça nous a fait, parce que justement le premier jour où on y est allé, donc Gardanne, c'est un lieu de soins palliatifs qui est à côté de entre Aix et Marseille et qui est un lieu très singulier, qui est une maison de soins palliatifs qui est reliée à aucune structure de soins et donc avec une grande liberté et une inventivité terrible. Quand vous rentrez, la première chose qu'il y a, c'est la gamelle de croquettes pour le chat. Et là, ils avaient eu la certif une semaine avant et j'essayais d'imaginer la directrice chez nous si la première chose qu'avait vu le certificateur, c'était la gamelle de croquettes du chat. C'est un peu surréaliste, mais super. Et donc ce jour-là, il y avait 5 patients qui étaient partis en visite au Beau-de-Provence pour voir les carrières de lumière avec des bénévoles et des aides-soignantes. Et donc ils venaient d'appeler pour dire qu'ils avaient fait tomber les clés de la voiture à l'intérieur de la voiture, ils attendaient la dépanneuse, ils étaient au bar du village à côté, fallait pas s'inquiéter, ils allaient revenir. Et donc les bénévoles qui étaient venus avec nous, c'est sûr que l'idée qu'ils pouvaient dans leur voiture emmener les patients et perdre les clés et attendre au bar du coin la dépanneuse, ça ouvrait un champ des possibles tout à fait singulier. Les bénévoles, ils accompagnent les patients au café, acheter le journal, ils vont à la plage, enfin ils font des tas de choses. Et voilà, c'est une association propre à la structure. Et moi, je crois que c'est quand même... Après, ça n'empêche pas, hein, mais je crois que ça ouvre quand même le champ des possibles. Et au sein des bénévoles, moi, je le vois à la SFAP, il y a quand même toute une réflexion en cours là-dessus, hein, avec des luttes fratricides. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'il n'y a pas d'enjeu de pouvoir ni d'enjeu de... Et des luttes fratricides là-dessus, hein. Les petits frères des pauvres veulent passer à du bénévolat de service et les grandes fédérations veulent rester sur du bénévolat d'accompagnement, parce que l'accompagnement, c'est plus noble, c'est saignant, hein, mais voilà, ça veut dire que c'est un mouvement aussi à peu près pour tout le monde, hein, de se poser ces questions-là. Et voilà, nous on a envie vraiment d'associer les bénévoles, ça nous permettra, il nous semble, de les associer de manière plus proche. Donc là, ils viennent deux fois par semaine dans le service, ils assistent à une partie du staff, pas tout le staff, ils ont un cahier sur lequel ils écrivent et que les soignants lisent, donc qui est à disposition. Les frères font la même chose, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une espèce de méfiance des soignants de ce qui se passe dans les chambres. Alors surtout avec les frères, à vrai dire. Les bénévoles, bon, c'était à peu près clair. Mais alors, les frères, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font du prosélytisme? Est-ce qu'ils essayent Et donc, les frères, ils laissent un cahier où ils écrivent, pas tout, bien sûr, hein, mais voilà, j'ai vu même machin, on a passé un long moment ensemble, on a parlé, on a prié ou non, voilà. Enfin, une petite trace qui permet aux soignants de savoir ce qui se passe, enfin, de faire un lien. Et puis, les bénévoles, comme les frères, ils vont pas avoir de patients sans avoir d'abord discuté avec les soignants. Ils font d'abord un point avec les soignants et c'est les soignants qui leur disent « Vous pouvez aller voir Madame Machin, ça serait bien que vous alliez voir Monsieur Truc, il vous attend. » Et c'est les soignants qui présentent. Alors on avait fait un truc, il y a des soignants pour lesquels c'est difficile, on avait fait un truc sur les plateaux du petit déjeuner. Alors on le fait pas tout le temps, mais genre un truc météo du jour. Alors il y a la météo et puis il y a ce qui va se passer aujourd'hui dans le service. Et pour que les patients puissent dire voilà, la musicothérapeute non je la veux pas, les bénévoles oui je les veux, les frères non, pour qu'ils soient, parce que pour nous le souci c'est que les patients soient libres de dire non. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas contraints de dire oui parce qu'ils n'osent pas dire non. Et je veux dire, les frères, quand ils viennent chez nous, c'est des frères, ils sont en habit. Enfin, si on ne veut pas les voir, il y a des patients pour qui c'est difficile, une fois qu'il est dans la chambre, qui dit est-ce que vous voulez, ben, non, je ne veux pas vous voir, c'est rude à dire. Et pourtant, il y en a qui ne veulent pas les voir. Et donc, c'est important pour nous, le passage par le soignant, c'est la garantie que les patients soient libres de voir ou de ne pas voir les gens qui interviennent dans le service. C'est une proposition, c'est jamais imposé. Et donc, voilà, ça nous paraît vraiment important de garantir cette liberté à l'ensemble des patients. Voilà. Alors, c'est l'heure du repas, là, ça va. Je veux pas vous... Pour faire court, pour nous, la sédation reste un traitement de symptômes. Donc pour moi, c'est super important. Je dis toujours que je ne pourrais pas rester en soins palliatifs s'il n'y avait pas la sédation. C'est-à-dire qu'il y a des situations insupportables où on a besoin d'utiliser cet outil-là pour pouvoir rester dans la chambre d'un patient qui étouffe, sans avoir envie de s'enfuir en courant parce que c'est insupportable, de pouvoir dire au patient « on sera avec vous jusqu'au bout, on fera ce qu'il faut pour que vous soyez le plus confortable possible ». C'est important d'avoir cet outil au moins intellectuellement à disposition. Après, pour nous, on l'utilise quand il y a un symptôme réfractaire qu'on n'a pas réussi à traiter autrement. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie là non plus du kit fin de vie. Donc on en discutait ce matin. Chez nous, on utilise la sédation quel que soit son objectif, que ce soit pour un pansement, que ce soit la nuit pour dormir, que ce soit pour un temps court ou que ce soit pour un temps plus long, en tout, chez à peu près entre 20 et 30 patients dans l'année. Et on suit 600 patients à peu près par an. On l'a prescrit à peu près 50 ou 60 fois. Et on l'utilise à peu près dans la moitié des cas. Et quand on le prescrit, toujours, la partie la plus importante de la prescription, pour nous, c'est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette sédation? Ça nous oblige, nous, médecins, c'est le principe de publicité de Kant. J'ai appris, je disais toujours, si je peux l'écrire, je peux le faire. Si je ne peux pas l'écrire, je ne peux pas le faire. Mais il paraît que ça s'appelle le principe de publicité de Kant. C'est vachement plus chic. Donc, en tout cas, voilà, ça nous oblige, nous, à cette démarche-là, d'écrire ce qu'on veut faire pour nous. C'est quoi l'objectif? Et puis ça permet aux soignants, après, qui vont l'utiliser, de savoir aussi, d'être au clair aussi pour eux. Je trouve que c'est aussi respectueux pour eux qu'on ne leur laisse pas faire des sales trucs que nous, on ne voudrait pas faire. Hein, ils savent aussi pourquoi elle est mise. Donc, du coup, ils comprennent aussi quel est l'objectif. On met dessus le niveau de sédation qu'on va rechercher. Donc, la plupart de nos patients, je pense que 90% de nos sédations, les patients sont conscients. Le but n'est pas de les faire dormir, mais juste de faire une anxiolyse et qu'ils soient plus confortables. Et c'est eux qui nous disent, c'est bon, là, ça va, on peut s'arrêter, je suis bien. Donc, c'est pas du tout l'image qu'on en a de faire dormir tous les patients. Hein. La sédation, c'est un outil qui permet de passer des situations de crise. Donc, si la crise cesse, la sédation cesse aussi. Et sans qu'on ait trop de difficultés avec ça. Hein. Donc, on a très peu de sédation. On n'a aucune sédation dont le projet, c'est qu'elle soit maintenue jusqu'au décès, ou très, très peu. Et par contre, on a des patients qui décèdent parfois au décours d'une sédation. Mais c'est jamais l'objectif pour nous. Hein. Il y a quelques sédations, c'est pour les difficultés respiratoires, ce qu'on disait qu'on met et qu'on sait qu'on ne va pas lever, parce qu'on sait que dès qu'on lève la sédation, les patients sont de nouveau inconfortables. Et que c'est, voilà. Mais c'est vraiment, vraiment pas fréquent. Hein. Alors, moi, je travaille dans une campagne profonde et ça ne nous est jamais arrivé. Je n'ai vu aucun changement depuis que la nouvelle loi est passée. Il n'y a aucun audois ou narbonné qui sait qu'il y a une nouvelle loi sur la fin de vie, ma pauvre dame. Donc ça va sûrement venir, hein, parce qu'il paraît qu'il y a des lieux où il y a des... Mais nous, on n'a jamais eu ce type de demande jusqu'à présent et j'en ai pas tellement peur. Il me semble que, je pense que là aussi, la parole, je veux dire, les patients, quand ils viennent avec ça, ils viennent exprimer une crainte, ils viennent exprimer une peur, rarement une exigence. Je trouve qu'on a à garder en tête, nous médecins, c'est pareil avec les directives anticipées contraignantes. Je veux dire, il y a plus de médecins qui contraignent les patients que le contraire. Des patients qui contraignent les médecins, il n'y en a quand même pas des tonnes, quoi, hein, surtout en soins palliatifs. Je peux vous dire que c'est quand même. Hein, donc moi, je n'ai pas tellement peur de ça. Je pense que voilà, ils viennent avec ce papier, c'est une occasion de parler. C'est une occasion de dire qu'est-ce qu'ils appréhendent, de quoi ils ont peur, qu'est-ce qu'ils souhaitent, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là. Et puis je pense qu'avec ça, on trouvera voilà, peut-être je me plante, peut-être des fois on va être très coincé, mais en tout cas pour le moment, pas de...